Bonsoir. Province du Nord Kivu, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, a appelé ce week-end les habitants des Bouleoussa dans les territoires de Walikale à l'unité et à la recherche permanente de la paix. Évariste Bouchard réagissait ainsi au conflit interethnique qui s'observe depuis quelques temps dans cette province et qui provoque des morts et des déplacements massifs des populations. Comment analyser cet appel et que faut-il pour une cohabitation pacifique des communautés dans la province du Nord Kivu? C'est à ces questions que nous allons tenter de répondre ce soir avec Julien Paloukou, gouverneur de la province du Nord Kivu. Bonsoir, monsieur le gouverneur Julien Paloukou.
Oui, bonsoir, bonsoir à tous les auditeurs qui sont nombreux sur la radio Capi.
Maître Juvenal Munubo Mubi, député national de l'opposition, élu de Walikale et cadre de l'INC, il est rapporteur de la sous-commission Forces armées de la Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale. Bonsoir, maître. Voilà, Omissinia qui n'est pas encore là, il va nous rejoindre. Didier Vitaki, spécialiste en droit international et expert en question des groupes armés. Bonsoir, monsieur Didier Vitaki.
Bonsoir, monsieur le journaliste.
Bonsoir. Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Conflit intercommunautaire à Bouleoussa dans le Nord Kivu, le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur et Sécurité est clair. Le sang ne doit plus couler à Bouleoussa, le chef doit être le protecteur de tous, il doit savoir fédérer les coutumes, a-t-il lancé Évariste Bouchard. Il s'est exprimé ce week-end lors de son passage dans cette contrée située dans le groupement Kobo en territoire de Walikale. Les propos du professeur Évariste Bouchard ont été recueillis à Bouleoussa par Gabriel Ouamenia.
Tout ce que nous demandons, c'est que le sang ne puisse plus couler à Bouleoussa. J'insiste que le sang ne doit plus couler. Quand nous essayons d'observer, il y a eu des mouvements de va et de vient, et ces mouvements n'ont causé que des victimes de part et d'autre. Si je dois revenir sur ce que le chef de groupement a dit, qu'il a reconnu qu'il y a des populations de la communauté Hutu qui ont toujours vécu avec vous ici à Bouleoussa et sans problème. Le chef a proposé, il faut qu'on soit ensemble. C'est ça le plus important, l'unité de Bouleoussa. Je voudrais dire une chose au chef. Quand il parle du groupement Ikobo, il dit les Congolais. C'est comme si les autres, que lui-même a reconnu avoir vécu avec nous ici pendant très longtemps, comme si elle n'était pas Congolais. Non, tous nous sommes des Congolais. C'est important pour le chef d'ici de reconnaître que les Nandé, les Hutu, les Kobo, les Baluba, les Topuké, toute cette diversité, nous sommes des Congolais.
Situation sécuritaire tendue et imprévisible dans quelques localités du groupement Bachali-Mokoto, territoire de Massissi, et dans toute la chefferie de Buito, en territoire de Rutshuru. C'est à quelques centaines de kilomètres au nord-ouest de Goma. Depuis la semaine dernière, on constate un activisme de groupes armés dans la région. Entre-temps, une nouvelle milice dénommée Raia Tujitegemeye, ou civile prenons-nous en charge, vient de se créer dans le groupement Bachali-Mokoto. Pour plusieurs sources, ces milices ont toutes des connotations ethniques. Les détails avec Bernardin Nyangi.
Dans le Bachali-Mokoto, plusieurs villages sont depuis la semaine dernière occupés essentiellement par la PCLS de Janvier Kalahiri et la nouvelle faction de Nyatoura Raia Tujitegemeye. Ce groupe est créé le 20 juillet dernier à Boutale en groupement Bachali-Mokoto par deux leaders locaux connus. Le mercredi 22 juillet, la PCLS a attaqué puis délogé ce nouveau groupe de Boutale. Bilan de certaines sources de la société civile, trois personnes, dont deux miliciens de ce nouveau groupe, ont été tuées. Dans le territoire de Massissi, de façon générale, c'est au moins trois groupes armés, notamment l'Ignatura, l'FDLR et les Maïmaï, Mazembe, qui sont très actifs depuis au moins deux semaines autour des principales agglomérations de la chefferie de Buito. La semaine dernière, au moins trois attaques contre les civils ont été enregistrées à Kibirizi et Bualanda. Huit personnes ont été tuées à Kibirizi et quatre autres sont mortes et 31 maisons incendiées à Bualanda. Cette situation occasionne déjà le déplacement des populations. La localité de Boutale se vide de ses habitants depuis ce week-end, alors que sept autres localités de la chefferie de Buito sont aussi désertées depuis la semaine dernière par la quasi-totalité de leurs habitants. Alors que les autorités territoriales affirment que les militaires prennent déjà les dispositions nécessaires pour traquer ces groupes armés, certains responsables de la police dans la région se disent préoccupés car la nouvelle milice de Bachali, par exemple, aussitôt créés, auraient déjà acquis de l'argent, des armes, des radios Motorola et même des tenues neuves assimilées à celles des FARDC. Cette source plaide pour une enquête sérieuse sur les sources de financement de cette milice. Goma, Bernard Nyangi, Radio Kapi.
Julien Paloukou, je rappelle que vous êtes gouverneur de la province du Nord Kivu. Les sang ne doit plus couler à Bouléoussa, a affirmé le vice-premier ministre, le professeur Évariste Bouchab. Une affirmation qui est valable pour beaucoup de territoires au Nord Kivu. Comment vous analysez cet appel du vice-premier ministre, M. Évariste Bouchab? Pourquoi, M. le gouverneur, les sang des innocents continuent à couler au Nord Kivu?
Oui, merci beaucoup. Je salue d'abord mes co-débatteurs. Je vois Didier Bitaki et Juvenal Mounoubo. Didier que j'ai perdu depuis un certain temps. Mais la question qui est aujourd'hui sur la table, c'est que nous saluons d'abord l'arrivée du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur. Vous vous rappelez qu'il y a un an, j'avais dit effectivement que pour notre pays, il faudrait vraiment qu'il y ait une troïka sécuritaire pour que finalement on voit les ministres de la Défense, on voit les ministres de l'Intérieur en charge de la Sécurité, tous venir régulièrement pour prendre la température de ce qui se passe au Nord Kivu. Et donc, je crois que j'avais été entendu à son temps, et aujourd'hui, les choses sont en train de bouger. Donc, je l'ai reçu le 22 juillet à Goma, et le samedi 23, il s'est rendu effectivement avec une forte délégation, au sein de laquelle on pouvait noter le représentant spécial adjoint, Monsieur Diallo et beaucoup d'autres humanitaires pour qu'ensemble on puisse évaluer la situation sur le terrain à Bouléoussa. Mais pour ceux qui ne connaissent pas bien le problème, le nœud du problème à Bouléoussa, c'est toujours la nébuleuse FDLR. Vous savez, les FDLR vivent dans un environnement de conflit qui est déjà teinté historiquement des suspicions entre les communautés et ces gens là-bas sont arrivés et ils enveniment la situation entre les communautés parce qu'ils sont à la fois présents dans les camps de déplacés internes et aussi combattants à côté des populations qui parlent la même langue qu'eux. Donc c'est cela qui crée finalement des problèmes sur le terrain où nous avons d'un côté des Congolais qui sont d'expression Kinyarwanda, d'autre côté des Rwandais qui sont regroupés en deux catégories, des Rwandais réfugiés et des Rwandais combattants qui sont d'expression Kinyarwanda. Et à un moment donné de l'histoire, lorsqu'on a vu beaucoup d'espaces qui n'étaient pas occupés par ni les FARDC ni la police être gérés par les FDLR, les sévices et les affres que les populations ont subis arrivent aujourd'hui à créer ce qu'on appelle la globalisation. C'est-à-dire à chaque fois que les populations qui avaient subi les affres des FDLR voient d'autres catégories de populations qui parlent la langue Kinyarwanda, elles croient effectivement qu'elles ont en face d'elles, les gens, les bourreaux. Et c'est cela, effectivement, ce que nous sommes en train de nous efforcer à expliquer aux populations à travers les commissions que nous venons de créer au niveau de la province. Nous avons créé une commission d'enregistrement à Bouléoussa pour qu'on puisse d'abord enregistrer l'ensemble des populations qui se trouvent à Bouléoussa déplacées. Et nous avons eu un chiffre, nous avons aujourd'hui 2504 personnes qui se trouvent à Bouléoussa. Maintenant, ce matin, j'ai présidé une réunion du gouvernement en province de Kinshasa, je l'ai présidé à Goma, et nous venons d'adopter un arrêté qui crée une commission maintenant d'identification. C'est-à-dire, au-delà de l'enregistrement de ces 2504 personnes, nous allons maintenant les identifier pour savoir qui est qui vient d'où, et pourquoi il est venu de là où il est, et se retrouver à Bouléoussa. Ce travail-là que nous faisons avec la Commission nationale pour les réfugiés, les humanitaires, les HCR et tous les services va nous permettre effectivement de devoir dissocier les FDLR des combattants, des réfugiés, des populations congolaises d'expression Kinyarwanda et ainsi permettre la cohabitation pacifique entre les Congolais. Voilà la démarche à laquelle nous allons arriver très bientôt.
Oui, monsieur le gouverneur, vous attribuez cette insécurité ou ces conflits interethniques à Bouléoussa à la nébuleuse FDLR. Mais est-ce qu'il n'y a pas un déficit de l'autorité de l'État, parce que vous avez évoqué le fait que des vastes territoires ou localités ne sont pas contrôlés par les FARDC et la police. Est-ce que les populations civiles qui se sentent non protégées par l'État Est-ce que ces populations n'ont pas développé certains mécanismes ou certains comportements en se regroupant au sein des groupes d'autodéfense? Est-ce que c'est lié seulement à la présence des FDLR ou c'est lié au fait que l'État ne joue pas son rôle, celui qui consiste, n'est-ce pas, à protéger les populations civiles contre ces groupes armés, les FDLR?
Oui, au Nord Kivu, nous sommes depuis 10 ans dans un processus de pacification. Nous n'avons pas eu que les FDLR, tout le monde le sait. Nous avons eu d'abord, de 2006 à 2008, le CNDP. Après, c'était le M23 qui a été créé. Au Nord, à Beni, ce sont les EDF Nalu. Nous avons eu un foisonnement des groupes armés, 23 groupes armés, lorsque la conférence sur la paix et la sécurité a été convoquée en décembre 2007 pour se tenir en janvier 2008. Donc, vous comprenez que nous n'avons évolué que dans ces conflits-là. Et aujourd'hui que nous avons évacué les CNDP, nous avons évacué les M23, nous sommes aujourd'hui en train de lutter contre les EDF dans la partie Beni. Il nous reste dans le sud de la province la nébuleuse FDLR, effectivement. Et vous comprenez qu'à un moment donné où nous luttions contre tous ces autres groupes que je viens de citer, il est resté des espaces entiers, des territoires entiers qui étaient effectivement sous contrôle des FDLR. Alors, c'est une faiblesse supposée de l'État ou présumée. Je ne sais pas quel est le terme qu'il faut retenir, mais je dois avouer effectivement qu'il y a eu des espaces qui étaient sous contrôle total des FDLR et ils ont imposé la loi, ils ont imposé des taxes, ils ont fait une administration là-bas. Et maintenant, quand les populations de ces endroits-là voient d'autres catégories de populations congolaises qui parlent la même langue que ces gens, qui les ont martyrisés, les populations autochtones ont tendance à croire qu'il n'y a pas de distinction entre les deux. Et donc, vous comprenez que l'État a affaire actuellement, et c'est pourquoi j'ai salué la présence du vice-premier ministre, qui lui-même est arrivé sur le terrain, pour effectivement qu'il épouse au niveau du gouvernement la philosophie qui est développée en province, pour que l'option militaire qui avait été menée contre les autres groupes armés, à savoir les M23 et les CNDP, soit totalement appliquée contre les FDLR, à côté effectivement de l'option de l'identification et d'enregistrement qui va nous permettre de dissocier les deux groupes.
Mais donc
je crois que la faiblesse de l'État à un niveau donné peut être évoquée, mais je crois que le processus est en cours pour qu'on arrive à mettre fin à cette nébuleuse.
Oui, la faiblesse de l'État peut être évoquée à un certain niveau. Est-ce qu'elle ne peut pas être évoquée à tous les points de vue, parce que vous évoquez, vous dites que vous avez dénombré plus de 2000 personnes à Bléoussa qui ne sont pas encore enregistrées. Comment vous expliquez que des personnes viennent s'établir à Bléoussa et c'est des personnes qui ne sont pas identifiées, qui ne sont pas enregistrées, alors que certains experts affirment que ces personnes arrivent avec votre bénédiction, c'est vous qui les encouragez, n'est-ce pas, et ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais lorsque vous encouragez ces personnes à aller s'établir à Bléoussa et dans certaines autres localités et que vous ne prenez aucune disposition pour coordonner ces déplacements, pour encadrer ces arrivées, vous ne pensez pas que quelque part il y a un relâchement, n'est-ce pas, de la part de l'autorité provinciale que vous êtes?
Non, je voudrais d'abord rejeter tout de suite les allégations sur lesquelles c'est le gouverneur qui encourage les déplacements de telles populations. J'ai même entendu des gens dire que c'est le gouverneur qui signe des feuilles de route des populations d'une localité A vers la localité B. Je me demande dans quel pays au monde un gouverneur signe les feuilles de route des villageois qui se déplacent d'un village à un autre. Sont-ils devenus des agents de l'État ou quoi? Donc vous comprenez que politiquement, il y a des gens qui sont animés de mauvaise foi, qui cherchent à récupérer ce genre de situation. Mais tout ce que je sais, c'est que la faiblesse au niveau des services de l'État civil est reconnue de tous. C'est pas au Nord Kivu où nous notons que l'État civil ne fonctionne pas très bien. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle aujourd'hui nous avons la CENI dans d'autres pays qui ont une administration qui est bien établie, il n'y a pas de CENI, parce que les services de l'État civil font le dénombrement de la population. Alors, au Nord Kivu, effectivement, on part tout à l'île, sur l'ensemble de la République, et pas seulement au Congo, un peu en Afrique, nous connaissons un problème de faiblesse de nos administrations territoriales par rapport au manque de professionnalisme dans les services d'État civil. Et c'est ça qui fait effectivement que nous nous sommes rattrapés en faisant le dénombrement et l'enregistrement de ces populations-là, ce qui va nous permettre de les connaître à fond, de savoir d'où sont-elles venues, pour que nous puissions trouver une thérapeutique appropriée.
Merci, Monsieur le Gouverneur. Maître Juvenal Mounoubou Moubi, bonsoir.
Bonsoir, monsieur Guy. Bonsoir à monsieur le gouverneur Paloukou. Bonsoir
rappelle...
à Didier Bitaki et à tous les auditeurs.
Je rappelle que vous êtes député national de l'opposition, élu de Walukale, cadre de l'UNC, et vous êtes rapporteur de la sous-commission Forces armées de la Commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale. Comment vous réagissez à cet appel du vice-premier ministre, le professeur Evariste Boshab?
Oui, j'ai suivi le ministre Boshab et je considère ça comme le vœu. C'est un souhait, il souhaite en tant que ministre que le sang ne coule plus, que la sécurité regagne cette partie du territoire. Mais le ministre ne peut pas faire que des vœux, des souhaits. Le ministre agit. Nous voulons des actions et des résultats. Le problème qui se pose ici, parce que j'interviens à partir de Goma, c'est un problème du déficit de l'autorité de l'État. D'ailleurs, si nous parlons du déficit de l'autorité de l'État, nous sommes un peu diplomates. Nous utilisons un peu l'euphémisme parce que on devrait dire mauvaise gouvernance sécuritaire, tout simplement. Et je vais le démontrer. Vous savez, des endroits comme Bouléoussa, si vous reculez un peu dans l'histoire la plus récente, vous verrez que c'est des endroits qui sont restés sans une présence dissuasive de l'armée. Quand nous parlons de l'autorité de l'État, nous voyons l'armée, nous voyons la police, nous voyons la justice de proximité même. Nous voyons l'administration publique. Mais lorsque vous voyez des coins, des contrées comme Bouléoussa, vous ne trouvez pas tous ces éléments de manière effective. Lorsque vous voyez un peu plus au sud, c'est toujours un territoire de Walikale en Toto, en ce moment ici, il n'y a pas l'armée, il n'y a pas la police, il n'y a pas la MONUSCO, il y avait les groupes Kifouafoua qui a profité de cette situation pour occuper ou s'emparer de cette localité. On m'a dit qu'il se serait en train de se retirer, mais ce n'est pas si certain. Il faudrait vérifier, évidemment, vous et moi. Lorsque vous remontez un peu plus au nord, vous êtes à Oninga. C'est le chef lié du groupement Osala. Votre radio, notre radio, Radio Okapi, a fait un reportage dernièrement, un papier, disant qu'il y a 5000 personnes qui ont abandonné leurs habitations pour fuir. Donc il se pose un problème de l'autorité de l'État qui n'est pas effective. Il y a donc déficit, je préfère parler du déficit, pour ne pas décourager ceux qui peuvent, et nous qui pouvons apporter des contributions, et d'abord en première ligne évidemment les gouvernements. Il faut rester positif, il faut rester optimiste, mais la réalité c'est ça, on est dans un cas de mauvaise gouvernance sécuritaire, on est dans un cas, s'il faut rester, il faut utiliser l'euphémisme, adoucir un peu des déficits de l'autorité de l'État. Et il faut les rétablir. Il faut rétablir cette autorité de l'État. Et pour les cas spécifiques de Bouléoussa, à Bouléoussa, il y a cette présence-là des FDLR. Et il n'y a pas eu des attaques. On n'a pas vraiment vu l'armée se déployer avec une capacité dissuasive pour venir au bout de cette menace-là. C'est justement profitant de cette faiblesse qu'il y a des groupes comme les MDC Rénové, les Mai Mai Mazembe, les IPDI, qui s'attaque, qui pourchasse les, qui poursuivent les FDLR. Pourquoi? Parce que ça, c'est la tâche que l'État devrait faire. Et ces groupes sont dans l'illégalité parce que c'est des groupes armés. Ils n'ont aucun mandat officiel pour agir ainsi. Il y a aussi d'autres situations comme des déplacés, ou des migrants. Je préfère les appeler les migrants parce que jusque-là, on n'a aucun résultat de l'identification fiable. Vous avez suivi, monsieur le gouverneur lui-même, il ne sait pas est-ce que c'est des Congolais, est-ce qu'il est mélangé avec des Rwandais. Combien de Congolais, combien de Rwandais? Eh bien, on a appelé à une identification rapide. Et cette identification doit associer la société civile, les chefs coutumiers, et qu'on pose la question, comme il l'a dit, j'ai aimé quand il l'a dit, il faut qu'on dise à chacun, qui est-il? D'où vient-il? Quelle est la cause du déplacement? À ma connaissance, il n'y a pas eu une grande guerre dans les jours passés qui pouvait justifier un déplacement massif des populations dans cette partie. Il faudrait donc vérifier tout ça. C'est tout que nous savons aussi que notre administration des frontières n'est pas encore très efficace comme nous le souhaitons.
Honorable.
Et donc, des questions comme celle-là, il faudrait que l'administration explique à la population. Communiquer. Gouverner, c'est aussi savoir communiquer. Gouverner, c'est anticiper. Hein? Il faut voir toutes ces questions. Il faut voir... et d'autres, d'ailleurs. Est-ce que ce n'est pas lié aux fonciers aussi? Hein? Il faut explorer toutes ces possibilités. Mais moi, je crois déjà que si on... on déploie l'autorité de l'État, et si on identifie clairement, et on remet chacun à sa place, si quelqu'un est venu du village X. Il explique pourquoi il a fui son village. On essaie de voir si les conditions sont réunies. Il faut qu'il regagne son village. S'il est venu du pays étranger, qu'il regagne le pays étranger. Honorable. Et quelle armée combatte les FDLR et quelle armée combatte tous les groupes irréguliers qui sont là. Il y a les FDLR, il y a les Maïma. Il faut les combattre
Honorable
et
Mnogo.
Restaurer l'autorité de l'État.
Oui, vous avez attribué la situation sécuritaire, cette situation d'insécurité, n'est-ce pas, qui sévit pas seulement à Bouléoussa, mais dans les territoires des Massissi, Routchour et dans beaucoup de territoires au nord Kivu. Vous attribuez cette situation à un déficit de l'autorité de l'État, à la mauvaise gouvernance. Honorable, les communautés qui ont toujours vécu en parfaite harmonie depuis plusieurs années, peuvent-elles facilement accepter de s'entraider déchirer? N'y a-t-il pas une main noire derrière tout cela? On vous accuse, vous, en politique, de tirer les ficelles pour des fins politiciennes.
En fait, il faut dire la vérité. Les populations vivent toujours dans une ambiance bon enfant. Arriver, par exemple, ici à Goma, vers la petite barrière ou la grande barrière, vous voyez, il y a une certaine symbiose. Il y a des mamans d'ici qui vont à Gisenyi, des gens qui quittent Gisenyi. Donc les populations n'ont pas de problème. Le problème, c'est à quel niveau? Le problème, c'est au niveau des leaders. Évidemment, je suis d'accord avec vous. Ceux qui parlent de tireurs de ficelles, oui, il y a des mauvais politiciens. Il y a des mauvais leaders qui tirent des ficelles. Il faudrait les identifier et à établir les responsabilités. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais on ne doit pas se limiter à ça. Et le ministre de l'Intérieur ne devrait pas émettre que des souhaits. On n'attend pas des souhaits de lui. On attend des actions. Nous attendons du gouvernement des actions pour restaurer rapidement l'autorité de l'État à Bouléoussa, à Kibirizi, un peu partout à Beni.
Merci.
Parce qu'on est déjà à plus de 1000 personnes tuées.
Merci.
Et ailleurs. Donc on attend plus des actions et pas se limiter à dire que voilà, c'est une question qui doit être gérée uniquement au niveau communautaire. Non, il faut identifier les tireurs de ficelles, les sanctionner, tout à fait d'accord, mais il faut restaurer l'autorité de l'État, il faut que l'État manifeste qu'il est présent,
merci,
tout simplement.
Merci honorable Didier Bitaki, spécialiste en droit international et expert en question des groupes armés. Et votre analyse par rapport à l'appel du professeur Évariste Boshabé.
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. D'abord, j'ai salué le confrère Juvenal Mounougo, je salue également son excellence, monsieur le gouverneur. Par rapport à votre question telle que vous la posez, cette question nous fait rire chaque jour. On parle de conflit communautaire. Je pense que les amis ont eu à débattre sur ça, mais ce n'est pas de cette manière que ça devait se faire. Parce qu'on parle ici d'un conflit communautaire comme s'il y a un conflit interethnique supposé. La question se pose. Il existe combien de communautés au Nord Kivu et ces communautés se battent les unes contre les autres, dans quel endroit précisément? C'est la question qu'il faut se poser. Et si donc il y a un conflit communautaire donc de nature interethnique, je pense qu'il fallait le situer. Géographiquement, ça se situe où ce conflit-là? Parce que si vous voyez dans le Massif, dans le Walikale, dans le Rutshuru, dans le territoire de Lubero, c'est à cet endroit-là où on retrouve des communautés qui parlent la langue de la frontière, de l'autre côté de la frontière. Ce sont évidemment des Congolais. Mais jamais ils s'est retrouvé en face, cette communauté s'est retrouvée en face d'une autre pour engager une confrontation directe. C'est-à-dire, il n'existe pas de conflit interethnique au Nord Kivu. Il existe plutôt des combats de leadership politique. Et la question du Nord Kivu, telle que moi je l'ai souscrit, c'est une question, un problème de leadership tout simplement. La gouvernance des conflits et des besoins ethniques pose problème. Qui gère ça? Comment on les gère? Comment on les oriente? C'est justement cela. Mais pour revenir à votre question, monsieur le journaliste, je suis étonné. Lorsque le ministre de l'Intérieur décrète la fin du découlement du sang au Nord Kivu, mais ce n'est pas lui qui a décrété le débit. Comment est-ce qu'il veut décréter qu'il ne veut plus que le sang coule? En décrétant cela, est-ce qu'il a pris les dispositions nécessaires pour empêcher que le sang ne coule plus au Nord Kivu? Est-ce qu'il a pris des mesures efficaces pour empêcher que les gens ne puissent mourir chaque jour? Et peut-être, disons, provoquer de nouvelles tensions comme ça se voit aujourd'hui. Je pense que il faut mettre ça sous la responsabilité de la compétence des autorités qui doivent gérer, qui doivent gouverner, qui doivent faire en sorte que ces troubles qui détruisent le Nord Kivu puisse s'arrêter. Par exemple, monsieur le journaliste, si vous prenez aujourd'hui les cas de ce qu'on est en train de dire, on cherche à identifier qui est qui. Mais lorsque on identifie les gens de Boulengsa, est-ce que c'est là que se pose le problème? Vous regarderez dans les massifs où on vous dit qu'il y a un groupe qui secret qui s'appellerait Raïa Tujite Gemei. Ce groupe est accusé de détenir des uniformes militaires des FRDC. Ce groupe dispose des moyens de transmission ou de communication efficaces, encore du niveau des FRDC. Ce groupe dispose, au même titre que l'armée régulière. Est-ce que c'est au sein de l'armée que ce groupe a tiré ses matériels? Est-ce que ce groupe se situe-t-il le long de la frontière pour dire qu'il y a eu infiltration, les matériels sont venus de l'extérieur pour les équiper? Il faut savoir que c'est à l'intérieur de l'administration, disons militaire ou civile, c'est là qu'il y a un problème. Et ce problème qu'on doit situer à ce niveau-là doit être bien analysé, bien étudié par les autorités pour savoir qui fait ça et pourquoi il le fait. Est-ce que la sanction suit, même si on a découvert? Je vous rappelle que dans le procès Kambale, Kambale avait déclaré qu'il ne pouvait pas comparaître parce qu'il accusait certaines autorités d'être derrière lui, qui lui ont doté des armes et qui lui ont servi d'attaquer l'aéroport de Goma. Vous vous rendez compte de cela? Alors, voilà. Ces autorités, où sont-elles? Qui les a sanctionnées? Donc, on doit mener des enquêtes et étudier, analyser les cas au profond, dans sa profondeur, pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre fin à l'insécurité, les auteurs, qu'est-ce qu'on en fait, et quelles sont les mesures à mettre en place pour éviter que ce groupe-là ne puisse continuer à se créer et que d'autres ne puissent poser des problèmes plus que ceux qui existaient auparavant. Je pense que c'est dans ce contexte-là qu'on doit mener.
Voilà, vous dites qu'il faut que l'on puisse mener des enquêtes pour essayer de clarifier cette situation. Et vous dites qu'il n'y a pas de conflit intercommunautaire, il n'y a pas de conflit interethnique au Nord Kivu, c'est plutôt un conflit des leadership politiques. Cela veut dire que personne, c'est comme ce qui s'est passé et ce qui s'est toujours passé à Beni, personne ne maîtrise les tenants, les aboutissants, ne maîtrise en fait ce qui se passe dans ces des territoires Masisi et Rutshuru. Il y en a qui parlent des conflits interethniques alors qu'il ne s'agit pas des conflits interethniques. Il y en a qui parlent, comme vous, des conflits des leadership politiques. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire finalement?
Ce qu'il faut faire, s'il vous plaît, je ne sais pas. Ce qu'il faut faire, c'est juste de la responsabilité des autorités qui gouvernent, qui sont au pouvoir, d'asseoir leur administration d'abord, créer la confiance au sein de la population, se faire accepter. C'est ça le problème de leadership, se faire accepter par la population. Parce que si je vous l'ai dit, le gouverneur est en train de me suivre, lorsqu'il se rend par exemple à Walikale, on lui dira, monsieur le gouverneur, c'est aujourd'hui 10 ans après que vous arrivez à Walikale. Qu'est-ce que vous nous amenez de neuf? Nous avons souffert, nous avons ceci, nous avons subi ceci. C'est à la fin, à l'occasion de l'indépendance, que vous arrivez à Walikale. Mais pendant tout ce temps, nous, population de Walikale, nous sommes en train de souffrir. C'est-à-dire, il n'y a pas d'impact de l'autorité de l'État sur le terrain. La population se gouverne elle-même, et ça, il faut reconnaître. Contrôler la ville de Goma ne veut pas dire qu'on contrôle l'ensemble du territoire. C'est comme si nous étions retournés dans la situation du RCD, où le RCD contrôlait Goma sans contrôler Birere. Le RCD contrôlait Goma sans contrôler l'aéroport. Et en ce moment-là, on disait que bon, écoutez, il existe une administration. C'est ce sur quoi nous assistons. Moi, je pense que la meilleure façon de résoudre cette question, c'est de remettre d'abord le problème sur terre, sur table. Discutons qu'est-ce qu'il faut faire pour résoudre ces dossiers ici qui concernent l'insécurité de la population. Vous vous imaginez que des groupes armés qui existent depuis plus de 10 ans, on n'a jamais su les aborder, les désarmer, on envoie les FRDC les attaquer, mais dans l'entretemps, on est en train de téléphoner que bon, il y a tel groupe, il y a telle force, il y a tel bataillon qui va vous attaquer, est-ce que vous pouvez peut-être prendre l'élage ou peut-être tendre une embuscade? C'est faire souffrir l'armée ou rien. L'armée est efficace. Mais dans une opération comme celle qui se déroule au Nord Kivu, on continuera à multiplier le nombre de victimes parce qu'à l'intérieur même de l'administration, il y en a ceux qui sont dans cette administration qui ne sont pas pour le pouvoir qui les gère, pour le pouvoir qui les dirige. Et c'est pour cette raison que les conflits s'intensifient. On a des groupes qui naissent chaque jour, des groupes également soutenus par ceux qui sont même dans les institutions. Moi, je pense que la meilleure façon de résoudre la question du Nord Kivu, c'est de créer une structure chargée de la restauration de l'autorité de l'État de manière obligatoire. Donc une autorité de l'État qui s'impose et non pas de la manière qu'on le gère aujourd'hui.
Vous merci, dites, merci, M. Vitaki.
Après l'identification, qu'est-ce qu'on fera? Qu'est-ce qu'on déploie à la place de là où, disons, là où on a mené cette
émission. Voilà, on va évoquer cela dans la deuxième partie de cette émission consacrée aux solutions, en plus des solutions pour sortir de cette situation. Monsieur le gouverneur, il y a une question qui vous est adressée, elle vient des Rutshuru au nord Kivu.
Moi, c'est Justin Ponzo, je vous appelle à partir du territoire des Rutshuru, c'est au nord Kivu. Ma préoccupation est celle-ci. Étant donné que le message de ce vice-ministre Évariste Boshabé n'est pas le premier à appeler toutes les communautés à limiter à la cohabitation pacifique, pourquoi y a-t-il toujours des tribales? Donc, on dit que ce sont des manipulations de certains politiciens congolais. Si tel est le cas, pourquoi pas mener d'enquête afin de découvrir ces politiciens mal intentionnés? Sinon, pourquoi l'arrivée des groupes armés, entre autres Maïmaï, FDLR, Nyatoura et tout consort dans certains villages de Kivu, portier, massacrer la population civile et incendier leur maison en présence des SRDC? C'est ce qui est pris comme complicité de certains hommes politiciens, car sur toute l'étendue du territoire national, il y a des militaires congolais.
Monsieur le gouverneur.
Oui, merci. Je voudrais, avant de répondre, de réagir à quelques préoccupations. D'abord, je suis d'accord avec M. Didier Bitak qui, quand il dit qu'il n'y a pas de conflit interethnique, ça c'est vrai, il n'y a que des tensions. Il n'y a pas une communauté qui s'affronte entre une autre. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, j'ai dit que la nébuleuse FDLR constitue le nez du problème. Deux, je voudrais dire, Buléou, ça n'est pas une ville comme Goma, comme Butembo, où je viens d'arriver ce soir, ou comme Beni, où je suis passé également ce soir. Mais Buléou, ça c'est un village perdu dans les collines de Walikale, où il y a à peine 300-400 habitants, et lorsqu'on dit qu'il n'y a pas d'administration, il n'y a pas de justice, il n'y a pas de tribunal, ce n'est pas normalement un village qui devait avoir un tribunal de paix ou de grande instance. C'est à la suite des problèmes qui s'y posent que finalement l'autorité de l'État est tenue à pouvoir y restaurer cette autorité-là. Sinon, dans tous les villages des 26 provinces, il n'y a pas de police, il n'y a pas d'armée, il n'y a pas de tribunal de paix. Donc je voudrais recadrer le débat pour que les gens qui nous suivent, qui sont d'ailleurs, ne pensent pas que Buléou, ça a été une ville qui avait été laissée à son propre compte. Alors, réagissant à la préoccupation de M. Justin, il dit, ben, est-ce qu'il n'y a pas de manipulation? Je sais très bien que les politiciens aiment toujours jongler avec des données comme celle-ci pour se faire une certaine popularité. Vous savez, dans l'histoire récente de cette province, elle a été divisée en deux. Il y avait une partie nord, qu'on appelait Grand Nord, qui était gérée par une rébellion qu'on appelait les RCD-KML, et qui était essentiellement Nande. Il y avait dans la partie sud une rébellion qui était RCD, gérée à la fois par les Tutsis au niveau des leaderships, mais dont les acteurs principaux au niveau opérationnel étaient des Hutus. Et donc, cette histoire récente a mis dans l'opinion de certains Congolais du Nord qui voulent l'idée que la province était subdivisée en deux, au point où certains politiciens, même jusqu'aujourd'hui, continuent à croire qu'à Butembo et à Beni, il y a des chefs de division provinciale qui ne répondent pas au gouverneur qui est basé à Goma ou qui ne répondent pas des chefs de division provinciale qui sont basés à Goma. Donc, il est vrai que des politiciens peuvent instrumentaliser ces conflits-là, peuvent chercher à tirer des dividendes pour se faire une certaine couleur politique, mais ce que nous faisons comme autorité aujourd'hui, même si des gens pensent qu'il n'y a rien qui a été fait, c'est de restaurer cette autorité de l'État. À Buléoussa, avec la MONUSCO, nous y avons amené des policiers qui ont été transportés par hélicoptère pour y arriver.
Merci.
Parce qu'effectivement, c'est un village perdu dans les collines. Il y a l'armée qui est déjà présente là-bas parce qu'il s'est posé un problème. Je dois dire,
Merci, à toute opinion,
qu'il est impossible de mettre chaque militaire sur chaque porte du village congolais, un militaire ou un policier. Mais nous nous efforçons à devoir agir une fois que des problèmes se posent dans des endroits reculés où
merci,
on avait jamais pensé à cet instant, on pouvait y mettre des militaires.
Maître Juvenal Mounoubomoubi, il y a une question qui vous est adressée, elle vient de Lubumbashi.
C'est Patrick Mbouli, Katama depuis Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga. En tant que le patron de la sécurité, le vice-premier ministre connaît ceux qui sont à la base de cette insécurité. Et il doit s'attaquer aux causes, pas aux faits. Et cet appel ne suffit pas pour résoudre le véritable problème que connaît cette partie du pays. Je pense que le gouvernement doit faire plus que ça. Donc dénicher tous les tireurs de ficelles, où qu'ils soient, les traquer, les punir, pour espérer une solution durable dans cette partie du pays. Sinon, ce n'est qu'un simple appel de rien du tout.
Maître Juvenal Mounoubou.
Oui, je suis d'accord avec Patrick.
Et pour revenir à ce que disait le gouverneur, même si l'exigence ici n'est pas que tout de suite il y ait des banques, des aéroports à Bouléoussa, mais au moins qu'il y ait de la justice, et il existe aussi ce qu'on appelle la justice des audiences foraines, c'est-à-dire une juridiction peut se déplacer pour aller offrir, distribuer la justice là où on en a besoin, là où il se pose le besoin de justice. Et donc, l'armée, la police, il a dit que ça a été déployé dernièrement, mais c'est pas comme ça que ça devrait se passer. Pourquoi? Parce que même si c'est un coin, un village perdu, pour revenir à ce qu'il a dit, mais il y a des habitants, c'est des Congolais qui vivent là-bas et qui ont besoin de la sécurité. Je suis d'accord avec Patrick, il faut dénicher les causes, il faut faire une véritable étiologie des causes et des acteurs, en fait, des tiers, des ficelles. Mais il faut déployer l'autorité de l'État, il faut commencer par ça. Il faut aussi, évidemment, comme gouvernement, organiser aussi des dialogues sociaux, c'est important. Mais il faut aussi faire le suivi, parce que quand même, il faut dire qu'il y a des efforts. Des fois, il y a des dialogues qui sont organisés, des dialogues sociaux, il y a des ONG aussi qui s'impliquent, mais ce qui pose problème souvent, c'est le suivi. Il n'y a pas un suivi et il n'y a pas aussi une grande appropriation de la part de Kinshasa pour un suivi des proximités pour voir qu'est-ce que ça a donné comme résultat.
Maître Juvenal,
donc je pense avoir répondu à la question de Patrick. Je suis d'accord avec lui.
Maître Juvenal, que faut-il pour une cohabitation pacifique des communautés dans cette province du Nord Kivu? Vous venez de parler des causes qui doivent être dénichées. À votre avis, quelles sont ces causes?
Alors, il faut d'abord savoir qu'est-ce qui se passe. Tout commence par les déficits de l'autorité de l'État. C'est un peu schématique. Alors, déficit de l'autorité de l'État, il se crée une sorte de vide sécuritaire. Les groupes armés en profitent. Alors, les groupes armés instrumentalisent les communautés. C'est les groupes armés qui parlent Kinyarwanda instrumentalisent les communautés qui parlent Kinyarwanda. Les groupes armés qui parlent d'autres langues essaient d'instrumentaliser les gens qui parlent cette langue-là ou ces langues-là. Et puis, il y a des mauvais leaders qui en profitent, un peu comme des pêcheurs en eau trouble. Et tout ceci, dans une situation où la jeunesse n'est pas encadrée, il n'y a pas assez de perspectives. Ceux qui avaient pris les armes, ils étaient peut-être démobilisés pour certains. D'autres sont encore, ils connaissent les maniements des armes. Il n'y a pas un programme DDR qui s'applique efficacement. Une zone militarisée, parce que depuis 1994, pour être précis, avec l'entrée des réfugiés rwandais, c'est une zone très militarisée, le Nord Kivu. Il n'y a jamais eu un programme sérieux de ramassage des armes. Le programme pour les armes légères et les petits calibres. C'est en fait l'ensemble de tout ça qui rend même difficile et qui laisse penser à une sorte de conflit interethnique. D'accord donc avec le gouverneur, d'accord avec Bitaki, qu'on n'est pas déjà dans un conflit interethnique, parce qu'on a connu quand même des conflits interethniques dans les années 90, mais il y a des fortes tensions à caractère ethnique qu'il faudrait apaiser. Et pour les apaiser, l'apaisement passe par les redéploiements de l'autorité de l'État.
Merci.
Je crois que si on redéploie l'autorité de l'État, et si on s'engage à améliorer les secteurs de sécurité, des moyens qu'il faut, aux militaires, aux policiers, je crois qu'il y a lieu, même si le pays est vaste, ce n'est pas une justification pour ne pas bien l'administrer.
Merci. Monsieur Zébizak, il y a une question que vous adressez, elle vient de Bukavu, c'est de Kivu.
Robert Mohamed de Bukavu, aussi de Kivu. Je pense que cet appel du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et de la Sécurité est une bonne chose. Il y a cependant lieu qu'il se limite à un niveau d'appel théorique. Encore faudrait-il qu'il soit assorti de stratégies concrètes et efficaces qui puissent permettre de mettre fin à l'insécurité à Bouléoussa, Walikale et au Nord Kivu en général, comme par exemple l'organisation permanente des dialogues sociaux entre les communautés locales, la lutte contre l'activisme des bandes armées locales, l'éradication du phénomène FDLR, ADF Nalu, comme ce fut le cas avec les M23, etc.
Oui, M. Djeditaki, nous sommes déjà dans cette deuxième partie de l'émission. Que faut-il pour une cohabitation pacifique des communautés dans la province du Nord Kivu? Maître Juvenal Munubo Mubi lui parle du déploiement effectif de l'autorité de l'État et aussi l'application effective des différents programmes DDR.
Merci beaucoup, Robert Baume, merci parce qu'il a posé le vrai problème, parce que l'appel du vice-premier ministre est théorique, et ça c'est vrai. Mais je voudrais juste, quand il faut dire que qu'est-ce qu'il faut, je pense qu'on utilise abusivement, c'est un terme générique, en disant que le dialogue social. Maître Juvenal Munubo vient de poser le problème de manière concrète. Est-ce que le dialogue social pose le fondement du ramassage des armes? Parce que ce qui pose le problème, c'est l'existence des armes illégalement détenues par des civils et par des ex-combattants qui ne sont ni démobilisés, ni intégrés. Ni... Donc, ils existent, ils sont, ce sont des rois dans leur royauté. Alors, le problème qui se pose, c'est que ce qu'il faut, il faut d'abord que le gouvernement central, ça, ça n'émane même pas de l'autorité du gouverneur de province. Il faut que le gouvernement central, dans les cabinets, dans les bureaux même, du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, qu'il y ait un service chargé du désarmement. Parce qu'on parle de DDR, c'est d'une façon vague. Le DDR, réintégration, je ne sais comment, ça ne raconte pas l'aspiration, les besoins réels sur le terrain. Il faut qu'il y ait un service spécifique qui s'occupe du désarmement. Je pense, le vice-premier ministre est en train de m'écouter. Lorsqu'on va en dialogue social, c'est juste pour se convenir que si telle ou telle autre personne, tel ou tel autre habitat, tel ou tel autre notable dispose de moyens militaires, il faut les rendre. Ça, c'est un. Les deux, il faut l'installation des services spécialisés, notamment l'AMR, la police, la justice, et ainsi de suite, juste pour suivre, traquer ceux qui se rendront, disons, responsables de quoi. Des refus de rendre ces armes aux autorités. Et en deuxième lieu, après, c'est ça la restauration de l'autorité de l'État. En deuxième lieu, on viendra finalement savoir si réellement il y a eu des conflits intercommunautaires liés aux problèmes fonciers qui se posent au Nord-Kivu. Parce qu'on est en train d'écarter ces problèmes fonciers qui opposent souvent les habitants. Depuis longtemps, c'est justement la référence de 1990. Alors en ce moment-là, on saura que réellement, qui est alors le tireur de ficelle après qu'on ait d'abord levé les équivoques à la base.
Merci,
si on ne peut pas procéder de cette manière, je ne pense pas qu'on puisse arriver à une paix durable au Nord-Kivu.
Merci, monsieur le gouverneur. Ça sera sur votre conclusion. Que faut-il pour une cohabitation pacifique des communautés dans la province du Nord-Kivu? Vous avez suivi monsieur Bitaki, maître Juvenal Munubo, et qui, dans leurs interventions, vous sentez qu'ils relèvent, n'est-ce pas, cette problématique DDR. Et Bitaki insiste sur, notamment, les volets désarmement des groupes armés.
Oui, je voudrais d'abord fixer l'opinion pour dire, aujourd'hui nous parlons des coins perdus de Bouléoussa. Il faut que les gens quand même se rappellent que hier c'était le CNDP, le M23 qui embrasait tous les territoires de Rutshuru, Masisi, Walikale. Mais aujourd'hui on ne parle que d'un coin de quelques centimètres carrés. Donc je crois que faut quand même que les gens reconnaissent qu'il y a des efforts qui ont été menés. Mais ce qu'il faut faire c'est quoi? J'avais dit à son temps, lors de passer du compte le M23, qu'il faut une option militaire. J'étais parmi les rares qui défendait cette option-là. Moi, je crois que le chef de l'État a déjà créé deux secteurs opérationnels. Le secteur opérationnel 1, qui est dirigé par le général Marcel Mbangwa Beni, et le secteur opérationnel 2, Sokola 2, qui est dirigé par le général Bruno Mandefou, qui gère Masisi, Walikale et Rutshuru. Et je crois que cette option militaire va nous permettre de détruire les groupes armés étrangers et locaux pour que finalement, on arrive à sécuriser les populations.
D'ailleurs,
on devra détruire les camps des déplacés internes, parce que ces camps sont pollués. Il y a d'un côté des Congolais, et les Congolais sont regroupés en deux catégories. Il y a des Congolais d'expression Kinyarwanda, d'autres d'expression autre.
Merci, monsieur le gouverneur.
La deuxième catégorie, ce sont les Rwandais qui sont à la fois réfugiés et combattants.
Merci, monsieur le gouverneur. Maître Juvenal Munubo Mubi, votre conclusion, vous avez suivi le gouverneur qui parle d'une option militaire, mais qu'est vaut une option militaire lorsque, après cette option militaire, on n'a pas mis en place une politique pour une réinsertion sociale de ces personnes qui faisaient partie des groupes armés?
Il faut vraiment de la réinsertion sociale. Et puis, il faut encadrer la jeunesse, que ce soit à l'Est ou à Kinshasa. Même à Kinshasa, il y a un problème. Tant qu'on n'aura pas une politique sur le long terme d'encadrement de la jeunesse, eh bien, ça ne sera qu'une bombe à retardement. Parce qu'une jeunesse non encadrée, c'est la proie facile à toutes sortes de manipulations.
Merci, monsieur Bitaki. Votre conclusion?
Je pense que la meilleure façon de faire, c'est d'abord de rendre compétents les institutions tant provinciales que nationales et leurs animateurs, mais aussi de veiller à ce que la population ne soit maîtresse de son propre avenir.
Merci, c'est la fin de cette émission.
Merci,
c'est la fin de cette émission. Merci à Nyangasa qui était à la technique et à toute l'équipe Dialogue en Congolais. Merci et bon studio programme sur Radio Kaki.